Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Baptiste, est-ce que tu peux nous faire un petit point météo? Car je crois qu'il y a une énorme tempête qui s'abat sur les États-Unis en ce moment.
Ça va, nous on n'a pas non plus, c'est pas non plus le cataclysme. On a toujours ce qu'ils appellent le cold front à un moment qui arrive au Texas tous les ans. Et nous ça n'a pas trop changé. Pendant quelques jours il fait très très froid. Donc là c'était descendu à moins 15, il neige, il gèle. Bon, c'est ce qui s'est passé, mais bon, on doit avoir 3 cm de neige, c'est pas la fin du monde. Après, ce qui est sûr, c'est qu'ici, il n'y a pas de truc de déneigement, quasiment, tu vois, il n'y a que des saleuses, etc., parce que bah, c'est que quelques jours par an, tu vois. Donc, ils salent un peu les grands axes et tout, mais globalement, on se débrouille parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme moi qui sont équipés avec des véhicules tout terrain, qui ont des pneus mud ou quoi.
Ah ouais, donc le mec avec sa Toyota Yaris sans cadre roue motrice, il galère, il peut pas sortir.
Non. C'est ça. Et donc les gens s'aident. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des terrains, il y a beaucoup de gens qui ont des quads, des buggies, etc. Donc c'est surtout ça que tu vois circuler, tu vois. Donc, et puis les gens font du covoiturage, ils s'aident.
Je me souviens pas d'avoir vu de la neige dans Dallas, à la série, mais c'est quelques jours dans l'année.
Ouais.
Donc c'est normal. Bon, pas de tornade, mais même s'il y avait une tornade, je me fais pas de soucis pour toi. Avec les, si tu tiens bien sur tes appuis, tu devrais pas t'envoler.
Oui,
bon frigo que tu es.
C'est ça. C'est ça.
Et puis en ce qui concerne cette émission, nous allons accueillir dans quelques instants Joël du compte Trump Fake News aux plus de 180 000 abonnés. La dernière fois qu'il était venu nous voir, il avait 100 000 abonnés et là il a presque doublé, c'est magnifique. Et comme son nom l'indique, il est spécialiste des actualités sur Donald Trump. Nous allons parler de sujets qui vous font beaucoup réagir. Après tu vas me dire avec toutes les conneries que les mainstream médias balancent sur Trump, c'est normal que ce genre de médias prennent de l'ampleur. Alors comme sujet, évidemment la question du Groenland. Trump veut-il vraiment s'en emparer? Quels sont réellement ses objectifs? Et puis on enchaînera sur le Conseil de la paix, cette nouvelle organisation internationale créée par Donald Trump lui-même, qui fait un pied de nez à l'ONU, car sa mission est de promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et légitime et garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par un conflit. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste?
Ben écoute, là, ça y est, j'en avais parlé la dernière fois sur mon Patreon du nouvel épisode de No Country for Old Men, mon nouveau podcast. Donc là, ça y est, c'est sorti. Excellent retour. D'ailleurs, il y a pas mal de gens. La dernière fois, j'avais dit que les gens pouvaient essayer de s'abonner, tu sais, et ça a pas mal marché. Donc je le redis, ceux qui veulent voir, on a un podcast qui s'appelle No Country for Old Men, qui est une fois par mois, qui est un podcast humour vraiment, enfin léger avec des discussions de crétins avec Pierre et mon pote Clément. Qui est une fois par mois, j'ai mes vidéos de chasse, j'ai beaucoup de choses, c'est sur Patreon, ça coûte 5 euros par mois et c'est surtout, vous n'avez pas besoin de... Enfin, c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez tester, si vous voulez faire un petit essai, vous avez le lien en description, vous payez 5 euros et vous avez accès, là je dois avoir, je sais pas, 50, 60 vidéos en accès là sur Patreon, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez pendant un mois et vous pouvez vous désabonner juste après si ça ne vous plaît pas et vous aurez juste payé 5 euros, donc je pense que ça vaut le coup. Comme je l'ai dit, là, l'épisode de cette semaine, enfin, l'épisode de No Country for Old Men, mec, mais rien que faire le montage, j'en pouvais plus. C'est de pire en pire avec les deux, là. C'est vraiment, c'est compliqué. Et là, on va avoir, dans le prochain épisode, on va avoir un 2010, un mec né en 2010.
Mais non.
Ou après, qui va venir. Et on va juger parce que, en fait, Pierre.
Attends,
Pierre,
il 2010, est en formation. Il a même pas 20 ans, non?
Pierre, non, il a 16 ans, ouais. Pierre est en formation en ce moment. Tu vois.
Ah.
Et donc, la formation qu'il fait, une formation pour son boulot requalifiante, et la formation qu'il fait se passe dans un lycée. Du coup, il se retrouve, donc lui, il est en classe avec des adultes, mais quand il est à la pause, il se retrouve avec des lycéens, tu vois. Donc, il nous parlait de ça dans No Country for Old Men, de trucs, les trucs gays qu'ils font, et du fait qu'ils trouvent tout gay, etc. Et on disait, donc, je sais pas si tu vas me suivre, mais les mecs disaient, je vous donne un petit exemple de genre de discussion qu'on a dans le podcast, tu vois. Les mecs disaient que. Pierre disait qu'il se plaignait qu'en fait, il voulait du feu pour son cigario. Et avant, au lycée, tout le monde fumait des clopes, tu sais. Et en fait, plus personne ne fume de clopes, donc ils n'ont plus de feu parce qu'ils fument des puffs, tu vois. Donc, c'est des petits dispositifs électroniques. Voilà. Et il me dit, les mecs fument des trucs roses ou violets avec des goûts framboises et tout. Ils se mettent ça dans la bouche et tout. C'est super tout, tu vois. Et on disait, en plus, faire des trucs... Écoute bien, hein, parce que ça, c'est vraiment du typique dans Country for Old Men. Faire des trucs de pédé quand t'es pas pédé, c'est plus pédé que de faire des trucs de pété quand t'es pété.
Oula, tu m'as perdu là.
On verra si les gens sont d'accord avec nous. Et donc du coup, dans le prochain épisode, on devrait avoir un mec né en 2010 qui est au lycée donc, qui va venir nous parler de la culture des lycéens et on
vous
va
allez insulter.
Si... Non, on va juger si ils sont gays ou pas gays. Voilà, on va juger avec en étant absolument impartial. Voilà.
Donc rien à voir avec la
Du coup, là.
géopolitique internationale et les tenants et les
Ah non, là, il
aboutissants
n'y a
d'une
pas de
présidence
géopolitique
de Donald
internationale. Non,
Trump.
non,
Ok,
non.
très
Là,
bien, dans
non.
un
La
délire.
doctrine Fogman, c'est pas ça. Non. Et
Ok,
je le
très bien.
rappelle, avant que je te laisse, je te passe la main,
Vas-y,
Texas
prends ton temps.
Jerky, toujours disponible sur jerkytexas.fr, le snack le plus protéiné du marché. On a d'excellents retours. Il y a beaucoup de gens là qui ont acheté à Noël, beaucoup de gens qui ont acheté là en début d'année, etc. On avait fait beaucoup, beaucoup de ventes pour Noël et les retours sont exceptionnels. Tout le monde kiffe. Les gens rachètent énormément. Donc ça, c'est vraiment la preuve que ça fonctionne. C'est vraiment le snack parfait après la salle de sport, au boulot. Moi, j'ai beaucoup de mecs sur la route, des camionneurs, etc. Des mecs qui font beaucoup, beaucoup de route, qui me disent, mais mec, c'est parfait parce que je peux laisser ça dans le camion, dans la bagnole, ça bouge pas. Je rappelle que c'est plus de 50% de protéines, c'est entièrement naturel, c'est fait artisanal, il y a zéro conservateur, rien, c'est de la viande et de la viande avec un peu d'épices et c'est tout. Et c'est excellent au niveau du goût. Vous avez deux goûts pour le bœuf, vous avez un goût pour le porc pour le moment. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et c'est disponible, je redis, sur jerkytexas.fr. Plutôt que bouffer des Mars, des bonbons ou des saloperies, voilà, plutôt que bouffer ce que les 2010 mangent, venir à fumer des puffs, allez-y. Texas Jerky.
Très bien, j'imagine que vu que c'est complètement déshydraté, à moins 15, c'est encore mangeable.
Ah oui, ça bouge pas. Non, mais ça, pour le coup, c'est un vrai avantage. C'est que, mec, ça bouge pas, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Parce que, tu sais, les barres de prot, les trucs comme ça, mais, tu sais, ça fond dans le sac. Tu peux pas laisser. C'est une date de conservation qui est quand même réduite et tout. Tandis que ça, pour le coup, vraiment, tu peux l'oublier dans ta bagnole et le truc est toujours nickel, quoi. Les packs sont refermables. Les sachets sont refermables en plus, tu sais. Donc, ça s'ouvre, tu refermes. Et, mec, tu peux littéralement le laisser des semaines. Ça ne bouge pas parce que c'est entièrement déshydraté. Donc, c'est vraiment pratique. En plus
Faites
d'être bon
attention à ne pas le
et
laisser trop
nutritif, c'est
visible.
très pratique.
Le laissez pas trop visible sur le tableau de bord parce qu'il y a peut-être Pierre Plotu qui va passer par là et qui va rayer votre voiture avec
Ouais.
ses clés.
Ouais, d'un
Mais
autre côté, le port, si tu le laisses sur le tableau de bord, ça peut t'éviter de te faire piquer ta bagnole.
intéressant, c'est un beau
Ça peut
concept.
servir d'antivol aussi.
Est-ce qu'on pourrait pas faire des fourrages en cuir en port pour les voitures? C'est
En
l'intérieur
cuir de
cuir on met
porc.
en cuir
Ah,
de
pas mal,
porc.
en cuir de porc.
Il y a un
Ok.
truc
Ouais,
là à
pas le
penser.
conseil, il y a marché à prendre. Il y a marché à prendre.
Et sinon, il y a des trucs de ton côté, mec.
Non, ça y est, écoute, j'ai fait le tour, c'est ton tour. Je te
Pas
laisse
mal,
la main.
efficace. Moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous propose de vous accompagner dans l'obtention de votre carte de résidence au Paraguay, que ce soit pour y être résident fiscal à 0% en tant que digital nomade, que ce soit pour un plan B au cas où si Macron veut vous envoyer sur le front russe, ou que ce soit pour vous expatrier dès maintenant et enfin trouver la paix et la liberté. Vous pouvez m'écrire par email à contact@leguise.com ou vous rendre sur mon site leguise.com. D'ailleurs, pour toi, ça pourrait être un bon plan B, Baptiste. On en discutera en off. J'ai deux, trois trucs à te dire. Et vous trouverez aussi sur le site mes autres services ainsi que mon merch. Puis n'oubliez pas d'aller sur le Patreon si vous pouvez nous soutenir à travers ça. En ayant accès à du contenu exclusif. Il y a plus de 300 podcasts et vlogs exclusifs sur mon Patreon, patreon.com/leguise. Le lien est en description. Et au lieu de vous abrutir sur TikTok toute la journée, téléchargez un jeu d'échecs ou un truc intelligent, écoutez mes podcasts en parallèle, écoutez mes vlogs pendant que vous jouez aux échecs. Et vous pouvez aussi un peu vous abrutir en écoutant évidemment No Country for Old Men. Je vous laisse ce petit écart. Et vous
Non,
me remercierez.
c'est intelligent, c'est intelligent. Ça a pas l'air, mais
Heureusement qu'il y a les autres contenus pour relever le niveau sur ton Patreon, mec.
oui, voilà. Mais après, il faut du
Les
divertissement
vlogs.
aussi, quoi.
Ah ben oui,
Il faut
évidemment.
du
Ah ben nous,
divertissement.
moi je me cache pas. Ce qu'on fait, c'est du divertissement avant tout. Hein. On fait
Bien
passer des
sûr.
idées à travers du divertissement.
Non, et puis No Country for Old Men, c'est vraiment des trucs pour rigoler, c'est de la discussion entre potes, on se marre bien. À côté, là, par exemple, récemment, j'ai sorti un podcast d'une heure avec un mec qui a fait 30 ans de chasse à l'approche, un Français, tu vois. On a parlé de chasse, on a parlé de ses anecdotes de chasse, de la chasse en France, etc., à l'étranger, enfin plein de choses, tu vois. C'était vraiment super cool. Et puis oui, il y a mes vidéos de chasse, il y a plein de choses. Et là, le mois prochain, je vais poster, je vais avoir une vidéo que je vais faire avec Pierre, une vidéo cigare que je vais faire avec Pierre sûrement. Une vidéo de débrief de chasse avec lui aussi. Enfin, je vais avoir pas mal de choses qui vont sortir, un autre vlog, etc. Donc, il y a plein de
Il n'y a
choses
pas
qui vont.
que No Country for Old Men. Je te taquinais, évidemment,
Ça, c'est une
mec.
fois par mois, ouais. Mais ça reste un de mes contenus phares que les gens aiment bien parce que c'est détente.
Parfait. Allez voir ça. Et puis, est-ce que je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet en accueillant notre
Allez!
invité?
Allez,
C'est
allez, allez.
parti. Salut Joël. Merci
Salut
beaucoup
les gars.
d'être
Bonjour
avec nous.
Baptiste.
Salut
Merci,
mec.
Lucas. Salut les gars. Vous allez bien?
Super, et toi?
Ouais, ça va, ça va.
Il fait
Ça va
froid de ton côté
super.
aussi, hein, parce que toi, t'es un peu
Ouais.
plus sonore que Baptiste, mais beaucoup plus sonore que moi aussi.
Ouais, c'est clair.
Donc,
Ouais,
c'est
on a
Et
un
où
petit
t'es dans quel
moins
état?
-20, ça va, normal.
T'es dans quel état?
Montréal.
Québec. Ah, Québec. T'es au Canada.
Québec.
Bah, c'est bientôt un État. Hein. D'ici 5 ans, ça devrait être un État américain. Si tout se passe bien.
Oh, on prend l'Alberta et on va leur laisser le reste. Hein.
J'avoue que l'Alberta, c'est le mieux à prendre quand même.
Ah, mais t'as beaucoup de pétrole. On est bien aussi au Québec en termes énergétiques, on a ce qu'il faut.
Hydroénergie. Oui, en termes énergétiques, ouais, mais en termes de population, c'est bon. Je vais prendre les 2-3 mecs de la campagne, je vais te laisser les Montréalais.
Voilà, c'est ça.
Putain, j'aime.
C'est ça.
Et on est tous basés en Amérique, comme vous venez de l'entendre. Et donc, toi, tu es spécialiste des actualités Donald Trump avec ton compte X Trump Fact News, aux plus de 180 000 abonnés, comme je vous disais juste avant. Allez suivre Joël hein, sur X Trump Fact News. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour te présenter ?
Bah écoutez, je me rappelle qu'on avait fait un super live ensemble en 2024, hein, lors de l'élection de Donald Trump. Donc c'était un super moment. Et c'est vrai que depuis l'élection de Trump, c'est vrai que notre compte, il a énormément pris d'abonnés. Beaucoup, beaucoup de choses se sont passées depuis ce jour-là, ce qui est un peu normal. Mais
uniquement sur Twitter, je me rappelle plus.
Ouais, j'ai un compte YouTube aussi. On débute sur YouTube, donc on a un peu plus de 2000 abonnés, puis on fait pas mal de podcasts aussi vous pourrez voir tout ça. Donc,
on peut dire aux gens, n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. Si vous avez aimé le compte Twitter, allez sur le compte YouTube. Et si vous ne connaissez pas du tout, déjà allez sur leur compte Twitter. Je pense que vous allez
Exactement, c'est ça.
Ça va de contrebalancer toute la merde qui sort dans les médias français sur Donald Trump, mensonge sur mensonge, imprécision sur imprécision. Mais... Et puis, mec, en fait. Ouais, vas-y, Baptiste.
Non, je dis que ça peut être un bon réflexe à avoir pour nos abonnés aussi, parce que moi, c'est très souvent que je reçois des messages, des gens qui me disent « j'ai lu ça, j'ai vu ça, dis-moi ce que t'en penses et tout ». Moi, je ne peux pas répondre aux gens individuellement. Enfin, je réponds rapidement parce que je réponds à tous mes messages, mais je ne peux pas disserter comme sur Radio Dixie avec chacun de mes abonnés, ce n'est pas possible, tu vois. Et moi, sur Instagram, je ne fais pas de posts vraiment politiques, etc., parce que j'essaie de ne pas me faire sauter mon compte. Donc, ça peut être un bon réflexe pour nos abonnés aussi, de quand ils lisent quelque chose ou qu'ils voient une actualité qui concerne Donald Trump ou la politique américaine, d'aller checker tout de suite la version sur Trump Fact News et de comparer, et après ils font leur avis. Mais plutôt que s'ils savent pas où chercher une autre version, on va dire, ils peuvent aller sur le compte de Trump Fact News et déjà je pense qu'avec ça,
s'ils ne pipent pas un mot d'anglais, ils peuvent aller voir
sur Trump Fact News
en français.
Ouais, j'aurais pas dit mieux, on sous-titre tous les discours de Donald Trump, tout est sous-titré, vous avez vraiment la version originale qui sort. Toutes les informations qui viennent des États-Unis, on sous-titre tout, que ce soit de Fox News, CNN, peu importe.
Heureusement que Kamala Harris n'a pas gagné les élections, mec. Sinon, Trump Fact News, il y aurait eu un peu moins d'informations. Et il y a une information, exemple, un truc un peu débile, mais c'est apparemment ICE mettrait en prison des enfants de 5 ans.
J'ai vu ça dans les médias français.
Alors que la réalité, c'est que non, ils prennent soin des enfants qui sont abandonnés par leurs parents parce qu'ils fuient ICE.
Il t'a abandonné le gosse. Ouais.
Il les donne à des services sociaux quoi, pour qu'ils puissent s'en occuper.
Non, bref.
Ce genre d'information.
Mais c'est important les traductions. Avant qu'on démarre, c'est important ce que Joël disait, puisque. Il sous-titre tous les discours et des fois ça suffit simplement parce que moi, le nombre de fois je vois des traductions frauduleuses dans les médias, c'est vraiment. Je pense qu'il y a un vrai truc qui se joue là-dedans. Des fois, on ne parle pas assez de ça dans la politisation des médias, etc. Sur la traduction, il y a vraiment un gros truc parce que on change des mots, on change le sens des phrases ou on coupe les phrases, etc. dans les traductions. Et donc. Sur le papier, ils disent on ne donne pas notre point de vue parce qu'en fait on fait juste une traduction, ils n'ont même pas besoin d'écrire un article derrière. En vérité, il y a une traduction. Je vous avais donné, il me semble, un exemple dans Radio Dixie une fois avec un docteur. C'était sur la chirurgie, c'est sur les médicaments aux États-Unis. Et un docteur, il y a des gens qui ont fait des overdoses avec des médicaments qu'il a prescrits. Et il dit moi, ces médicaments, je les prescris parce que les gens en ont besoin. S'ils en font une utilisation erronée, c'est hors de mon contrôle. Ça, c'est ce qu'il dit en anglais. Et ça avait été traduit par le médecin français par « c'est pas mon problème ». Tu vois ? C'est complètement différent. Parce que forcément, les gens jouaient les commentaires, les gens insultaient le mec en disant « le mec, on n'a rien à branler ». Or, c'est pas ça qu'il a dit.
Bah oui.
Tu vois ? Et oui.
En fait, ça le fait passer de bien intentionné à mal intentionné.
Ça fait passer de neutre, tout simplement, où le mec qui ne peut pas contrôler ce que les gens font chez eux avec les médicaments. Regardez, ce mec-là s'en branle du moment qu'il vend des médicaments. Et donc, c'est très important sur des discours politiques, etc. Une simple phrase comme ça, ça peut faire basculer les gens. Parce que les gens se disent « Ah, mais tu vois, j'aimais bien Trump, mais quand même, là, je le trouve abusé. où je le trouve, tu vois, il en a rien à foutre, etc. Alors que c'est pas ce qu'il a dit. Donc rien que pour les traductions, je vous conseille vraiment d'avoir des traductions qui sont neutres, parce que c'est Joël, il fait pas des traductions qui vont dans le sens de Trump ou quoi. Il fait des traductions qui sont simplement voilà.
Ouais, quand il dit de la merde, il dit de la merde, et quand il dit des choses intéressantes, enfin bien, enfin voilà, peu importe ce qu'il dit au fait, nous on traduit comme c'est.
Donc le gauchiste n'en a rien à branler, il est prêt à tous les mensonges pour arriver à son but, alors que le droitard, en général, il a des valeurs, et donc il ment beaucoup moins, ça, j'en suis convaincu. Un exemple parfait, c'est la BBC, mec. Ils avaient, ils avaient modifié un discours de Trump, ils avaient carrément coupé toute une partie du discours et intégré deux morceaux de vidéo pour faire croire qu'il disait aux personnes du Capitole de faire un bain de sang ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, le directeur de la BBC a démissionné à cause de ce montage vidéo qui a été fait avant les élections pour faire du tort à Trump et qu'il lui
Trump va leur demander 10 milliards de dommages et intérêts pour les couler d'ailleurs derrière ça.
Donc, je compte sur lui pour ça. Ouais.
Ils sont dans la merde. En plus, la BBC, c'est quand même, faut le savoir, c'est une institution publique, hein, c'est un média public, donc c'est financé par les impôts, hein, c'est pas privé, donc ils sont censés être neutres.
Ah, on connaît l'histoire. Bon, je te propose, Joël, de commencer par le Groenland alors. On entend tout et n'importe quoi dans les médias aussi. Donc, j'aimerais enfin comprendre ce que veut exactement Donald Trump au Groenland.
Alors, le Groenland, c'est... on a pu en parler la dernière fois dans ton émission, hein, le Guise. Il faut regarder où c'est placé stratégiquement. C'est vraiment tout au nord du monde. Donc, en fait, tu es au top du monde, pratiquement. Et tu as un contrôle de l'Arctique qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour Donald Trump. Déjà d'un point de vue militaire, mais aussi pas que. Alors ça, c'était l'explication de Donald Trump, à savoir je suis le mieux placé pour défendre le Groenland parce que, si tu veux, le Danemark, il ne sert à rien. Et donc, moi, je veux un contrôle total pour pouvoir justement empêcher la Russie ou la Chine d'attaquer potentiellement le Groenland. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Groenland possède surtout un coffre-fort de ressources encore inexploitées. Alors, il y a des terres rares au Groenland qui sont des gisements massifs de minéraux. On a le néodyme, on a le praséodyme, qui sont notamment essentiels à tous les matériaux de haute technologie, donc tout ce que vous avez dans vos ordinateurs, vos téléphones portables, qui sont capables, c'est aussi pour construire de l'armement, pour le médical, pour vraiment tout. Donc ça, c'est très, très important pour Donald Trump parce que il est en concurrence directe avec la Chine qui a un contrôle à peu près de 80% de ce marché dans le monde. C'est énorme. Okay. Donc déjà une indépendance énergétique pour Donald Trump. Ensuite, le sous-sol recèlerait des réserves géantes de pétrole et de gaz estimées à des dizaines de milliards de dollars de barils. Donc ça, c'est quand même très important aussi. Ça lui permettrait aussi d'avoir une domination dans ce secteur-là.
Pour revenir sur le premier point important, là, avant de d'étaler toutes les ressources, alors il y a l'aspect en fait de protection du territoire américain, il y a l'aspect géopolitique d'un point de vue guerre. En fait, si vous prenez un globe en 3D là, sur Internet et que vous scrollez vers le haut, vous allez tomber sur le Groenland. Et juste derrière le Groenland, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la Russie. Et puis juste après la Russie, il y a la Chine. Et en fait, il y a carrément des chemins de glace qui sont en train de fondre et qui donnent des accès directs de la Russie jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis. Est-ce que toi, Baptiste, tu penses que la question de protection du territoire américain, elle est légitime dans ce contexte-là ?
Alors, je pense qu'elle est légitime, mais surtout, moi, il y a un truc qu'il faut que je pense rappeler. Avant qu'on parle de pourquoi Trump fait ça, je voulais juste rappeler deux, trois petites choses sur le Groenland, parce que je pense que les gens connaissent mal le Groenland. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Groenland est dans l'Union européenne. Or, le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. C'est une terre attachée au Danemark, mais qui est indépendante, qui a voté deux fois contre l'adhésion à l'Union européenne. Donc, le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Ensuite, le Groenland a, depuis la Seconde Guerre mondiale, un accord militaire avec les États-Unis. Ils ont signé un accord avec les États-Unis, qui est le plus gros accord européen avec les États-Unis d'installation de bases militaires américaines. C'est-à-dire que les États-Unis, en échange de poser des bases américaines au Groenland, s'engagent à défendre le Groenland. À l'époque, c'était contre une invasion allemande. Et ça a été re-signé après la guerre. Donc, ça a été signé pendant la guerre. Ça a été re-signé en 56, 10 ans après la guerre pour valider ça. Et ça a été réactualisé en 2004. Hein, donc c'est un accord. Voilà. Donc, c'est un accord qui est toujours complètement...
Ce n'est pas caduque.
Voilà, qui n'est pas caduque. Donc, c'est une chose importante à notifier. Et quant au Danemark, le Danemark est un allié militaire des États-Unis de longue date, et même c'est probablement un des premiers alliés européens, puisqu'il faut se rappeler que quand on a déclassifié les dossiers de la NSA, on se rappelle que ce sont le Danemark qui ont collaboré avec les États-Unis pour quand il y a eu les écoutes des présidents européens. Ah ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Non, il y avait les écoutes des présidents européens par l'État profond américain qui avait mis sous écoute des dirigeants européens. C'était le Danemark qui avait collaboré, qui avait hébergé les agents de la NSA, la base de la NSA pour faire ça. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, le Danemark achète, je rappelle aussi, hein, tout l'équipement militaire du Danemark est entièrement américain. Donc c'est-à-dire que c'est des gens qui parlent de l'Europe, etc., mais qui n'achètent aucun matériel en Europe, qui achètent tout aux États-Unis, qui ont des accords militaires avec les États-Unis, etc. Donc,
à part la France, tous les pays européens, ils sont dépendants des États-Unis, ne serait-ce que pour leur matériel militaire. Donc,
mais ils décident aussi de l'être, hein, parce que pas revenir là-dessus, mais ça a été une longue... On s'est démilitarisé, on en avait parlé avec l'époque avec Rochdy, l'Union européenne s'est démilitarisée en comptant sur les Américains pour tout, et aujourd'hui, ils pleurent. Bon, ça, c'est, on les avait
Ce que je veux dire par là, c'est qu'une confrontation entre les États-Unis et l'Europe, c'est complètement un non-sens.
Non, mais il n'y a pas... Oui, non, ouais. Non, mais de toute façon, c'est même pas le... Là, il n'y a pas de question sur le sujet.
Et par rapport au Groenland, mec, là, par rapport aux bases américaines au Groenland, en fait, Trump, il estime que ce n'est pas suffisant. Il veut plus.
Parce qu'en fait, il doit passer par le Danemark si demain il doit intervenir ou si demain il doit installer de nouvelles bases. Il devra forcément passer par un accord avec le Danemark. Donc, du coup, Trump, il veut que le Danemark dégage pour avoir une totale emprise sur le Danemark. Actuellement, ils ont la base de Pitfutik, ex-Thule, qui est déjà un maillon clé en termes du réseau radar américain. Par rapport au Groenland, il est situé au cœur du passage JUK. Alors, JUK, c'est le Groenland Iceland Royaume-Uni. Donc, ça leur permettrait de surveiller et de bloquer tous les sous-marins nucléaires russes sortant de Mourmansk. Donc, c'est aussi un rempart contre la route de la soie polaire que la Chine tente d'établir. Donc, il y a à la fois un aspect militaire, comme l'a dit Baptiste, très, très important, mais aussi un aspect commercial. Parce qu'avec la fonte des glaces, il y a de nouvelles routes qui sont en train de s'établir et qui permettraient pour les États-Unis d'avoir un contrôle à la fois pour l'Europe, d'aller à l'Europe et aussi d'aller en Asie. Donc, ils pourront avoir des taxes, évidemment, qui proviendraient de ces territoires-là. Donc, c'est énormément d'argent qui est en jeu. C'est un potentiel d'énergie pour Donald Trump inépuisable qui va être... Parce qu'au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump, il ne voit pas ce projet-là pour les 2, 3, 4 prochaines années. Il voit ça pour les 30 prochaines années pour les États-Unis. Une fois qu'il va partir, il se dit, peu importe le prochain président qui va me succéder, si demain on a affaire à une Kamala Harris ou un, je sais pas, une AOC, au moins je sais que les États-Unis auront de quoi tenir pendant les prochaines années grâce à mon accord.
Donc, il va écrire son nom dans l'histoire.
Bien sûr.
Non, mais attends, c'est important parce qu'aujourd'hui, où tout le monde se pose la question, tout le monde est en train de... Tous les économistes, tous les gens qui s'intéressent un petit peu à l'évolution des marchés, etc., en Europe, nous disent que tout le monde est en train de devenir dépendant de la Chine, y compris les États-Unis qui étaient sur cette voie-là aussi, notamment pour les terres rares, pour toutes les nouvelles technologies, etc. Tout le monde pleure en disant « Ah ouais, mais on devient dépendant de la Chine, il n'y a pas de solution. » Si, il y a des solutions. Et en fait, ça, c'est typiquement en fait, une manœuvre pour se défaire de la dépendance à la Chine. C'est exactement ce genre de choses, c'est-à-dire sécuriser des terres rares, des territoires qui vont aider, des voies commerciales qui vont aider. Donc, je pense que c'est un des gros objectifs de Trump aujourd'hui, de sécuriser la puissance américaine comme étant restée et étant tenable la première puissance mondiale et d'être de moins en moins dépendant de la Chine pour tout ce genre de choses. D'où les accords sur les terres rares avec l'Ukraine qui ont été négociés, d'où le Groenland.
Je crois qu'au Groenland, il y a 25% des terres rares mondiales, comme tu me disais, Joël, la dernière fois. C'est énorme.
C'est ça, un peu exploitable. Et il faut savoir qu'il n'y a rien exploité au Groenland.
Ouais, c'est ça la question. Mais pourquoi ni le Danemark, ni le Groenland
Parce qu'il faut investir, mec. Attention, hein, c'est toujours pareil. À l'époque, on se demandait pourquoi on n'exploitait pas l'or. Il y avait des gisements d'or. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne me rappelle plus si c'est en Arctique ou en Antarctique. Mais il y avait des gisements d'or qui, à l'époque, n'étaient pas exploités parce qu'en fait, trop coûteux à exploiter par rapport aux revenus, à ce que l'or allait te rapporter. C'est-à-dire que tu payes plus cher de créer les installations d'exploiter que ce que ça te rapporte en or. Le cours de l'or ne pouvant que monter. Aujourd'hui, l'or est assez élevé pour couvrir les frais d'exploitation, donc on les exploite. Et je pense que c'est un peu le même principe avec les terres rares. C'est que, en fait, dans le futur, là, ça va coûter des milliards à exploiter. Surtout qu'il n'y a rien, tu vois. Mais dans le futur, est-ce que c'est un investissement? Je pense que tu vois, ils voient ça avec un investissement à long terme. C'est-à-dire que oui, pour le moment, ça va coûter plus cher que ce que ça va rapporter. Mais si c'est pour avoir une Amérique qui est de moins dépendante et qui a ses propres terres et qui peut fabriquer ses propres micro-puces, etc. Je suis pas un spécialiste
stratégique,
tout ça, mais voilà,
complètement stratégique.
Donc je pense que c'est ça. Je voulais juste rappeler un petit truc aussi parce que j'ai vu un commentaire qui dit la démarche est maladroite. En fait, la démarche est pas maladroite parce que la démarche elle est connue. Ce que je crois qu'on a oublié, c'est que il y a deux choses que je vais rappeler. D'une, les États-Unis ont déjà essayé d'acheter le Groenland. Hein, c'était en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont déjà essayé d'acheter le Groenland. Ils avaient proposé je ne sais plus combien de millions. Ça a été refusé. Et du coup, en fait, ils ont fait déjà ce chantage, entre guillemets, à on achète le Groenland ou on le militarise, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont fait renouveler, après la guerre, les accords militaires pour les bases au Groenland. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de jeu de comme on a là hein, de bluff entre guillemets en disant on va l'acheter, on va l'envahir, tu vois, les mecs ont dit non, on veut pas le vendre, tout
ils
ça
ils avaient proposé Marilyn Monroe et 25 millions de dollars
mais ils ont non mais donc marque. Mais donc c'est pas, et là c'est, on parle de 46 hein, donc on parle pas de Donald Trump, donc c'est quelque chose de très connu. Et ensuite faut pas oublier qu'il y a déjà eu les Virgin je crois que c'est les Virgin Islands, il me semble,
Virgin Islands,
hein, qui ont été vendus, je fais pas d'erreur hein, là-dessus,
je vais vérifier tout de suite, mais il me semble que c'est ça,
qui ont été vendus par le Danemark aux États-Unis, ça a été fait déjà ça. Donc, je veux dire, voilà, il y a eu déjà, et c'était déjà
25 millions de dollars. Quelle affaire, voilà. Quelle affaire.
Oui.
Et ben, à l'époque, 25 millions de dollars de l'époque. Hein.
Mais le chantage était le même, entre guillemets. Enfin, le chantage, c'est-à-dire la pression était la même. C'est-à-dire de faire courir le bruit que de toute façon ils allaient les envahir. Le mec en face se dit, bah, de toute façon, on n'a pas la puissance pour résister, donc autant les vendre plutôt que de les perdre. Et ça a marché. Donc quand les gens disent, il aura jamais le Groenland ou c'est n'importe quoi de faire ça, bah, c'est des choses qui ont déjà marché dans le futur deux fois.
Après, je pense que son objectif. Alors moi, c'est comme ça que je vois la chose, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais Trump, il négocie toujours en balançant un truc ultra hardcore pour ensuite redescendre et faire croire à son adversaire qu'il a gagné.
Avec...
À mon avis, s'il a un contrôle militaire du Groenland, il en sera satisfait, même s'il ne possède pas le Groenland. Mais après, il y a autre chose à prendre en compte, Baptiste, c'est qu'il peut faire ça sans l'acheter au Danemark et sans la force, parce que comme me l'expliquait Joël aussi, le Groenland a le droit de se détacher du Danemark s'il vote pour, et techniquement, il pourrait donc voter pour se rattacher aux États-Unis, et Trump pourrait acheter ses voix en donnant jusqu'à 1 million de dollars par Groenlandais.
Ouais, 100 000 dollars, mais il y a un gouvernement à l'intérieur du Groenland qui est indépendant, en fait, et du coup, qui vote leurs propres lois, leurs propres...
D'où la non-adhésion à l'Union européenne, hein, deux fois.
Exactement. Donc, qui est indépendant, hein, c'est... voilà, donc, en effet, comme tu dis, le Guise, en effet, il pourrait voter pour se détacher, ils ont le droit d'ailleurs de le faire, pour se détacher du Danemark. C'est une possibilité, évidemment, qui pourrait être totalement envisageable. Comme tu l'as dit aussi, il y a aussi la négociation, et je pense que Trump... et ça, c'est très intéressant. Je pense que les observateurs ne l'ont pas peut-être assez répété, mais Trump veut négocier directement avec l'OTAN. Donc, ça sous-entendrait que Trump pourrait, par exemple, dire bah, « si vous ne voulez pas aller dans mon sens, je pourrais, par exemple, diminuer l'argent que je donne à l'OTAN, qui représente à peu près 40% de ce que reçoit l'OTAN. » Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très, très important, parce que ça, forcément, ça désengagerait les États-Unis de l'OTAN. Et on sait que, comme l'OTAN est très, très tributaire des Américains.
Donc, est-ce que tu penses que s'il obtient le contrôle militaire et l'autorisation d'exploiter les terres rares à vitam aeternam, il serait content avec ça?
Oui,
même
je pense
si qu'en tout cas, n'est pas rattaché aux États-Unis.
Je pense qu'il en aurait en tout cas une. Évidemment, je pense que c'est son objectif. C'est il l'annonce pas comme ça parce qu'évidemment, il va pas l'annoncer de cette manière. Avec la même chose avec le Venezuela d'ailleurs. Hein. Il a pas dit je vais prendre le Venezuela parce qu'il y a les plus grosses réserves de pétrole. Mais évidemment que ça fait partie du projet. Donc oui, évidemment, il serait énormément ravi d'obtenir le Groenland et je pense qu'il va l'obtenir. Ça, c'est ma prévision.
Ah, tu penses ça va se rattacher aux États-Unis carrément ou tu penses qu'il va obtenir simplement...
Je pense qu'il va obtenir en tout cas une partie du Groenland, que ça soit en tout cas un contrôle militaire du Groenland et aussi la capacité d'exploiter les ressources énergétiques du Groenland. Ça, je pense
bientôt vlog de chasse de Baptiste au Groenland.
Une fois que alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que tu sais que tu parles de ça, mais tu sais, c'est marrant parce que là, c'est actuellement dans le milieu de la chasse professionnelle. Le marché de la chasse professionnelle aux États-Unis, c'est énorme. On parle pas d'un secteur, on parle pas d'un hobby ou quoi. On parle d'un secteur. Non, mais on parle d'un secteur à plusieurs milliards de dollars. Hein. C'est un énorme secteur, le secteur de la chasse professionnelle aux États-Unis. Et donc, notamment là, je vais à une convention professionnelle qui est à Nashville, qui est la très grosse convention du Safari Club International en février là.
27 et milliards annuellement, mec, c'est énorme.
Non, mais voilà, c'est pour ça que
27 milliards.
C'est un énorme secteur. Là, il y a le Safari Club International qui qui a sa convention donc pour les pros, etc. Et bah, il y a une grosse question sur ce qui va se passer avec le Groenland, parce que c'est un énorme secteur de chasse. C'est un nouvel état, c'est des nouveaux gibiers, c'est des nouvelles politiques de conservation qui, pour le moment, sont très mal gérées, d'ailleurs, parce que c'est géré par l'Europe, donc c'est toujours de la bite pour la conservation des espèces. Mais donc, les choses se posent sur savoir quelles sont les sociétés qui vont s'installer là-bas, quelles sont les politiques de conservation qui vont être mises en place si ça devient américain. Ça va être un gros enjeu pour les professionnels de la chasse aux États-Unis et les chasse conservationnistes, ça chasse c'est évident. Mais il y a déjà, des chasses au Groenland. Hein. Tu sais, on chasse le bœuf musqué là-bas. Il y a pas mal de chasses de sociétés de chasse qui sont installées là-bas. Mais voilà, si ça devient américain, ça va être un bouleversement dans le secteur. C'est évident parce que
là-bas, tu peux te perdre complètement dans la nature à des centaines de kilomètres de n'importe quelle ville.
Et puis il y a beaucoup de sociétés qui sont très installées en Alaska. L'Alaska, c'est très compliqué aussi pour certains permis, certaines espèces, etc. Là, ça va donner accès à certains gibiers similaires ou certains environnements similaires, peut-être avec moins de restrictions, peut-être avec moins de frais. Donc c'est un gros bouleversement pour le vrai. C'est un énorme, ça sera un énorme bouleversement dans le milieu.
Joël, il sera intéressé, mais pour aller chasser la groenlandaise depuis qu'il a vu Miss Groenland sur YouTube.
Ah, les Inuits. Ah non. Ah oui. Ok. Pas les natifs quoi. Que les Inuits groenlandais, ils sont pas, pas exceptionnels. Hein.
Ouais, je pense que les nanas mix Inuits européennes, il doit y avoir des trucs pas mal. D'ailleurs, Miss Groenland a fait le buzz récemment.
Je m'occupe des bœufs musqués et des ours polaires. des Groenlandais.
Il est focus. Et donc, par rapport au Groenland, d'un point de vue principe, on va nous dire vous voulez jouer libéraux, libertariens, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Déjà, ce serait à travers votre principe démocratique, si jamais ils rejoignent vraiment les États-Unis. Et de deux, là, on parle de questions de sécurité nationale. Hein. Derrière, il y a la Russie. Hein. Derrière, c'est pas la Thaïlande ou le Paraguay. Et donc, c'est clairement une question de sécurité nationale. Et ça rentre évidemment dans le cadre du régalien. Je vous redonne la parole.
Oui, d'ailleurs, il y a une compagnie chinoise hein, qui avait tenté déjà de venir essayer de récupérer le marché au Groenland et qui finalement n'a pas réussi parce que les États-Unis ont mis un peu leur veto. Donc, évidemment,
il y a une pression qui s'accrue de ce côté-là, ça c'est évident. Et si ce n'est pas les États-Unis, ce sera la Chine, je pense, d'une manière ou d'une autre.
Exactement. Et je pense que Trump se dit aussi. Qu'il a vu Biden aller au pouvoir et potentiellement Kamala Harris, il se dit si demain il y a un gars comme ça ou une meuf comme ça qui arrive à la tête des États-Unis, c'est sûr que des pays comme la Chine, des pays comme la Russie ou d'autres pays émergents vont profiter de la situation pour essayer de s'imposer justement dans des territoires encore inexploités et notamment le Groenland en fait partie. Donc il préfère mettre ses billes Donald Trump comme ça, voilà, le dossier est réglé. Et peu importe après, une fois que lui, il n'est plus là, il y aura toujours une sécurité pour les États-Unis dans les prochaines années. Donc, c'est un investissement très, très important pour les États-Unis.
Clairement. Enfin, je pense qu'on a tout dit, hein, honnêtement.
Oh, je pense qu'on a tout dit. Hein.
Non, mais il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, tant qu'il n'y a pas plus...
Affaire à suivre.
Tant que ça n'avance pas, voilà, c'est une affaire à suivre.
Affaire à suivre. Il a dit 2 semaines à peu près. Il aura des réponses dans 2 semaines. Il va négocier avec l'OTAN. Donc, je pense qu'on va avoir pas mal de...
D'ailleurs, il a clairement dit qu'il n'envahirait pas militairement. Même s'il avait laissé sous-entendre il y a quelques semaines, il a clairement dit lors de son meeting Davos que l'implication militaire est hors de question. Et il n'en a pas besoin d'ailleurs, parce que pour les différentes choses qu'on vous a dites. Donc pour résumer, tant d'un point de vue militaire pour la défense des États-Unis et même de l'Amérique du Nord, c'est une évidence, mais aussi d'un point de vue stratégique par rapport notamment aux terres rares, ce qui permettra aux États-Unis de ne plus avoir besoin de lécher les couilles de la Chine sur certains points lorsqu'il y aura des négociations internationales. Ça les libérera de ce poids des terres rares contrôlées par la Chine principalement. Donc c'est les deux raisons qui font ça. Et je vous propose donc d'enchaîner avec le Conseil de la paix. Directement lié à ce sujet, d'ailleurs, créé par Donald Trump, et dont d'ailleurs l'Argentine et le Paraguay font partie des membres fondateurs, pour la petite anecdote. Joël, qu'est-ce que c'est que ce Conseil de la paix, le Board of Peace ?
Alors, le Conseil de la paix, donc, ce comité était créé pour mettre en œuvre le plan global pour mettre fin au conflit à Gaza, notamment adopté par la résolution 2803 du Conseil de sécurité de l'ONU en novembre 2025. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une gouvernance de transition, administrer la bande de Gaza via un comité de technocrates palestiniens qui s'appelle le NCAG, pour remplacer le Hamas. Reconstruction massive, donc transformer Gaza en un hub économique moderne, souvent comparé à Dubaï sur la Méditerranée, et grâce à des investissements privés et internationaux. Donc, l'objectif. Donc, il y aura
plusieurs. Je pense que c'est plus global que ça. C'est quand même aussi pour faire un pied de nez à l'OTAN et gérer la paix dans le monde.
Alors, à l'ONU. Un pied de nez à l'ONU.
À l'ONU, excusez-moi.
Voilà, c'est potentiellement remplacer l'ONU parce que Trump estime que l'ONU ne fait pas bien son boulot. Il y a beaucoup de discussions pour rien, mais tu n'arrives à rien à la fin.
L'ONU est devenue extrêmement politisée aussi. Hein.
L'ONU est 100% politisée.
C'est ridicule.
Là, tu as 35 pays qui ont accepté l'invitation sur une soixantaine de conviés. Donc, il y a un billet à 1 milliard de dollars pour faire partie du club. Donc, tu as plusieurs pays. Tu as cité notamment le Paraguay. Tu as aussi évidemment le Qatar. Tu as la Turquie. Tu as l'Indonésie. Donc, tu as pas mal de pays musulmans. Tu as l'Égypte.
Et je pense que c'est 1 milliard de dollars en investissement militaire. Hein. Ce n'est pas un chèque que tu signes à Trump ou aux États-Unis.
Oui, c'est ça, exactement. C'est pour investir directement. Et puis, donc, ça va être dirigé par Donald Trump, qui sera, entre guillemets, le président avec Jared Kushner, avec Marco Rubio et l'ancien premier ministre britannique Tony Blair et des chefs d'entreprise comme Mark Rowan. Donc, ils seront en charge un peu de ce comité. Et voilà. Donc, en fait, l'objectif de Donald Trump, il l'a dit, c'est de concurrencer l'escroquerie qui est l'ONU, qui est devenue l'ONU, en fait, qui n'est pas là pour régler les conflits, mais pour les faire continuer. Parce que, évidemment, ben, ça fait de l'argent. Évidemment, ça fait des gars qui ont des postes, des bureaucrates qui ne servent à rien, qui sont juste là pour signer des papiers, faire des discours. Et voilà. Donc, Trump, il veut essayer vraiment de faire avancer les choses. On l'a vu très, très. Engagé sur le dossier Russie-Ukraine. On l'a vu très engagé sur le dossier, évidemment, du Moyen-Orient avec l'Iran aussi en ce moment où c'est très, très chaud. Et on voit vraiment que Trump prend des initiatives qui sortent de tout de toute cette bureaucratie mondialiste que Trump a définitivement décidé de laisser tomber. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est sûr que beaucoup ça a été très, très critiqué. La France, pour le moment, comme l'Angleterre, d'ailleurs, pour le moment, sont en train de réfléchir, comme d'habitude.
Macron Trump a carrément refusé l'invitation. Hein.
Macron, il a refusé officiellement
Il me semble, hein. C'est ce que je vais vérifier.
Donc voilà, c'est toujours les mêmes, hein, quelque part, tu vois. C'est toujours les derniers de la classe qui jouent un peu toujours les rebelles en s'opposant à tout ce que fait Trump, de toute façon. Poutine a donné un accord, en tout cas, pour le moment.
Oui, j'ai entendu ça, ouais.
Voilà, par rapport à il a des avoirs qui sont bloqués aux États-Unis de 1 milliard de dollars. Il a dit, vous pouvez récupérer ces avoirs-là.
Invité donc, au Conseil de la paix par les États-Unis, la France n'entend pas donner de suite favorable.
Voilà. Ben, tu auras la France, tu auras le Canada aussi, que Trump a mis de côté aussi, le Canada, parce qu'apparemment, le Canada, ils n'étaient pas d'accord sur la somme. Donc on comprend bien que, tu vois, tu as les pays qui sont toujours les mêmes pays où qui font partie clairement, tu vois, de toute cette organisation de l'ONU et qui sont un peu les lèche-bottes de l'ONU, tu vois. Et puis, tu as d'autres pays qui commencent à émerger et qui ont compris que si demain, tu veux faire bouger les choses, il faut s'allier avec Donald Trump.
En gros, c'est simplement pour négocier hors ONU. Toi, Baptiste, t'en penses quoi ? J'allais te poser la question.
Oui, c'est une alliance militaire. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas ce que les gens... Là, je lis les commentaires. En fait, je comprends pas.
tu ne reconnais pas ton public.
Non, mais je comprends pas ce que les gens... J'ai l'impression que personne ne comprend réellement ce que c'est ce truc. Je vois un mec qui dit, mais c'est complètement contrôlé. Pas juste ça. Mais l'OTAN, c'est quoi ? Expliquez-moi. L'OTAN, c'est quoi ? C'est pas contrôlé par les USA, l'OTAN ? C'est 70% de puissance militaire américaine, l'OTAN. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On se demande. Ben, c'est une alliance militaire, voilà. Celle-ci, elle se veut, en tout cas, elle se vend comme étant quelque chose qui va essayer de régler les conflits et amener la paix, voilà, comme ce que se vendait l'ONU. Sauf que l'ONU, évidemment, ne fait rien. L'ONU, c'est la même chose, hein, c'est une alliance militaire. Hein, c'est des gens qu'on voit des militaires qui sont au lieu d'être sous bannière nationale, etc., sont sous bannière de l'ONU. On envoie des militaires,
Donc, en fait, l'ONU et l'OTAN, c'est juste deux alliances militaires différentes.
Bien sûr. Okay. Bah pour moi, en tout cas, aujourd'hui, l'ONU, c'est une alliance militaire qui est censée être là pour maintenir la paix. Mais ça reste une force militaire. Hein. C'est des soldats qu'on envoie, c'est des équipements qu'on envoie à l'ONU. Voilà. Et l'OTAN, à l'inverse, c'est une alliance militaire qui est censée être là pour garantir la sécurité occidentale, on va dire. Je vous dis comment les gens sont vendus. Donc, l'ONU, il y a quelqu'un qui dit « l'ONU n'était pas pleinement aux mains des US ». Oui, mais l'ONU ne sert à rien. L'ONU est absolument inutile. Donne-moi un conflit qui a été réglé par l'ONU ces 25 dernières années. Je rappelle que, et je suis pas, pourtant vous savez que je ne suis pas un grand fan d'Israël, hein, l'ONU c'est plus d'une centaine de condamnations du gouvernement israélien, zéro condamnation sur la Corée du Nord, zéro sur l'Iran, zéro sur les talibans en Afghanistan.
Et puis c'est con. Et puis ces conseils-là, ils sont tenus par la Chine ou ils sont tenus par des pays.
Et bien sûr, l'ONU, ça a plus la
dictature.
Ça ne sert absolument à rien. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, on sait que Trump veut se défaire au maximum de l'OTAN. Donc il crée une nouvelle force, une nouvelle
alliance. Il s'est barré de l'OMS, hein, il faut le dire
voilà,
aussi.
Il crée une nouvelle alliance militaire qu'il estime être capable de régler les conflits et, voilà, et de maintenir la paix avec des pays qu'il choisit et qui ne sont pas juste les pays européens, parce qu'il en a ras le cul des pays européens, parce qu'à juste titre, parce que c'est tous des gouvernements corrompus de gauchistes ou des mecs qui sont en train de se faire, il l'a dit, hein, islamiser, et que lui, il n'a pas envie de s'allier avec des pays qui, dans 20 ans ou 30 ans, seront aux mains de l'islamisme. Donc voilà, donc il crée son propre truc, c'est tout ce que c'est. Donc il n'y a rien de hyper compliqué à comprendre. Et oui, encore une fois, on ferait mieux. Moi, je pense que si on avait un gouvernement correct, ce serait intéressant d'en faire partie, parce qu'on a une puissance militaire qui est la première puissance militaire européenne, que si on avait un gouvernement qui investissait dans le militaire, dans le secteur militaire, dans la défense, etc., il serait encore plus à même de faire entendre sa voix auprès de ce conseil, surtout avec quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire important, qui a une parole. Aujourd'hui, évidemment, non. Aujourd'hui, si on rejoint ce truc-là, Macron, il dit non, mais en fait, si on rejoint ce truc-là, évidemment, on va être des laquais, parce que vu qu'on est, absolument incapable de tenir aucun front aujourd'hui.
L'argent, c'est le nerf de la guerre, et si tu vas mettre deux cacahuètes dans le conseil pour la paix, tu n'auras aucune voix. Mais après, encore une fois, le principe, il est simple, les gars. Si l'idée, c'est simplement la défense des États-Unis et des Américains, il n'y a rien de mal là-dedans.
Non, mais après, si c'est juste ça, nous, on n'a rien à foutre là-dedans. Mais si c'est vraiment un truc militaire international qui peut…
Mais non, mais parce que les défenses, les accords militaires internationaux, ça permet de se défendre mutuellement les uns les autres.
C'est c'est ça.
Donc au final, ça revient à ça.
Bref, ouais, encore une fois, c'est…
Et puis Trump, il veut aussi… Il a aussi, avec tous ses investissements, et comme tu l'as dit, c'est de reconstruire les pays qui ont été dévastés par la guerre. Notamment, on parle de Gaza. On sait qu'il a il l'a dit plusieurs fois, il aimerait bien faire de Gaza un pays qui pourrait enfin vivre de l'économie, tu vois, et pas seulement du terrorisme, tu vois. Donc, il y a de la reconstruction derrière. Hein ?
Bon courage.
Moi, je me mettrais pas là-dedans à sa place. Hein. Ça, c'est le genre de choses qui sent le bourbier. Ça, c'est le genre de choses qui sent le bourbier. Hein.
Alors, pour remplacer la population aussi, quoi.
Bah, je pense que non, mais ça fait partie du plan de Donald Trump. Hein. C'est vraiment en profondeur. C'est-à-dire, il veut rééduquer entre guillemets les gens. Il veut essayer de reconstruire avec un nouveau gouvernement.
Je pense que ça, c'est le seul côté négatif de Trump, c'est qu'il est de ce côté-là, c'est le côté interventionniste en ce qui concerne la question d'Israël.
Nous,
on défend pas ça.
Mais il défend pas. Mais il faut comprendre une chose.
Je me permets de parler à ta place, Baptiste. Nous.
Oui.
On est une seule entité, toi et moi, mec. Non, c'est pas vrai. En tout cas, Joël pense peut-être différemment. C'est ça que vous voulez dire.
Un cerveau pour deux. non, mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que Israël est au centre de toutes les tensions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu résous le problème de Gaza, derrière, tu vas aussi ramener la paix avec les accords d'Abraham, tu vois, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important pour Donald Trump. Il ne faut pas oublier que le point le plus important, c'est l'Iran, d'accord ? Parce que c'est l'Iran qui finance toutes ces organisations terroristes, d'accord ? Que ce soit le Hezbollah au Liban, le Hamas ou les Houthis au Yémen, et c'est eux qui déstabilisent toute la région. Et les pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui sont aussi des alliés des États-Unis, vont profiter de la paix avec Gaza, parce qu'ils vont pouvoir rentrer dans les accords d'Abraham, ils vont pouvoir commencer à faire du commerce.
C'est une question utilitariste. Après, il y a la question principe et la question utilitariste, mais je comprends ton point utilitariste.
Ça fait les
affaires de tout le monde, c'est pas forcément bien d'un point de vue principe, mais bon, c'est une longue discussion. Après, oui, c'est sûr que moi, c'est ma conviction, j'en sais rien, mais je pense que si l'Iran, ils ont la capacité de détruire les États-Unis, ils s'en priveraient pas. Ça, c'est mon avis.
Ah oui, non, c'est évident.
Non, ils ont peut-être pas. L'idée,
c'est de les empêcher d'arriver à ce stade-là.
Exactement. Mais s'ils ont la bombe nucléaire, ils pourraient atteindre les États-Unis. Mais dans l'esprit, c'est de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait, dans l'esprit de Trump, hein, je parle, il ne veut pas qu'il y ait justement une puissance au Moyen-Orient qui puisse justement déstabiliser tous ces pays-là. Parce que Trump, il voit, si tu veux, le Moyen-Orient comme un gros, gros potentiel en termes de commerce, tu vois. Que ce soit avec le Qatar, que ce soit avec l'Arabie Saoudite et même avec l'Iran. Trump le dit d'ailleurs régulièrement, il est en train de parler avec l'Iran pour essayer de trouver un accord et d'arrêter, tu vois, il veut éviter une intervention. Donc, pour lui, l'Iran, c'est un gros, gros potentiel en termes de commerce. Donc, pour avoir malheureusement la prospérité, des fois, tu es obligé de passer par la guerre. Tu n'as pas le choix.
Ouais. Donc, pour résumer tout ça, l'ONU, ça ne sert à rien, c'est de la merde. L'OTAN, ça ne correspond pas à Trump parce que c'est ultra politisé. Et puis, parce que l'OTAN,
c'est juste. Voilà, c'est ça.
Il a signé mercredi 7 janvier un décret ordonnant le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales qui ne servent plus les intérêts américains, notamment la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, comme tu l'as dit. Et ça, c'est excellent. Il faut se sortir de tous ces trucs qui n'ont rien à voir avec le régalien, avec la défense du territoire américain, etc. etc.
Non, je veux juste dire un truc pour la communauté. C'est toujours un petit peu difficile la position dans laquelle je comprends certains Français se trouvent. Et on a une tendance à la vexation, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a du mal, les Français, à comprendre qu'on n'est plus un empire, on n'est plus une grosse puissance. Malgré ce qu'on dit, on n'est plus une grosse puissance, on n'est plus capable. C'est-à-dire qu'on a une certaine puissance, mais on n'est plus capable de la faire valoir. Et donc, aujourd'hui, il faut manœuvrer pour nos intérêts de la meilleure façon possible. Et là, ce n'est pas au programme, mais essayer de redevenir une grosse puissance, c'est toujours, bien sûr, d'actualité, mais ce n'est pas au programme pour le moment. Donc, il faut réagir comme ce qu'on est. Il faut arrêter de bander les muscles et de toujours se vexer en disant « Oh, mais il a mal parlé et tout ». Je vous donne un exemple là, récemment. Quand il a parlé en Afghanistan, il a dit que les soldats européens étaient restés loin du front. Mais j'ai vu le tollé général que ça représente. J'ai vu encore dans notre chat et j'en dis « Ouais, mais tu te rends compte ce qu'il a dit, etc. » Bon, soyons honnêtes. Vous savez tout le respect que j'ai pour l'armée française, etc. J'ai moi-même des amis qui ont servi en Afghanistan, des amis proches qui ont servi en Afghanistan. Évidemment qu'il y a des gens qui sont tombés, mais on va parler de minutes de chiffres. Les Américains ont déployé 800 000 soldats en Afghanistan. 800 000. Ils en ont perdu 2700. D'accord ? Les Français, on a déployé 70 000 soldats. On en a perdu 90. Donc, du point de vue de Trump, quand il dit les soldats européens sont restés loin du front, il fait une généralité, une grosse tendance. Bien sûr qu'il y a des soldats français qui sont allés au front, bien sûr qu'il y a des gens à nous qui se sont battus fièrement, etc., qui sont morts, mais 90 contre 2700, 70 000 soldats déployés contre 800 000. Toute l'Europe ensemble, tous les pays européens ensemble ont déployé 200 000 et quelques soldats. 800 000 juste pour les États-Unis.
Alors qu'en termes de population, les États-Unis et l'Europe, c'est similaire.
Ça sert à rien de se vexer et de faire les pas en mode « Ah ouais, mais non, mais nous, on n'est pas les plus forts, les gars. C'est pas vrai. On n'est plus les plus
aujourd'hui,
forts. »
Aujourd'hui, on est dépendant des États-Unis pour se défendre. Et quand tu es dépendant de quelqu'un, bah, tu écoutes ce que te dit cette personne.
Bien sûr. Donc, je ne dis pas que, qu'il faut se faire marcher dessus, etc. Mais il faut juste essayer de raison garder et de réagir pragmatiquement au lieu de réagir avec des émotions en disant « Oh, mais c'est… Ouais, mais le truc de conseil de guerre, ça va être présidé par les États-Unis. Ouais, mais là, il a dit ça sur nos soldats. » Donc, voilà ce qui…
Et au lycée, tu te fais bizuter par tout le lycée, mais tu as un pote costaud qui te défend pour pas que tu te fasses tabasser. Mais tu ne vas pas te mettre le pote costaud à dos. Tu vas rester sympa avec lui et tu vas rester à ta place parce que c'est lui qui te permet de te faire défoncer.
Non, mais je veux dire, à un moment, c'est notre faute ce qui nous arrive aussi. Si on n'est pas une grosse puissance militaire, si l'Europe aujourd'hui n'est pas capable d'être au niveau des États-Unis, c'est que la faute des Européens. C'est tout. Nous qui avons décidé de ne pas faire ça. C'est nous qui nous sommes démilitarisés de plus en plus, qui ont décidé de mettre des petits pourcentages de budget dans l'armée. Je veux dire, aujourd'hui, l'armée française, c'est la plus grosse armée d'Europe. Et pourtant, ce n'est pas non plus
une question économique, mec, parce qu'on rappelle à chaque fois ce chiffre aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas que des décisions, parce qu'aujourd'hui, le PIB par habitant aux États-Unis, il est deux fois plus important qu'en Europe, qu'en France.
Pour des décisions qu'on a prises.
C'est ça. Non, mais 100%. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des décisions militaires directes. C'est qu'en fait, les décisions économiques qui font que la France a beaucoup moins d'argent et pèse beaucoup moins d'un point de vue financier, d'un point de vue cash, font que l'armée française est beaucoup moins importante. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Avoir une économie florissante, ça permet d'investir dans la défense du territoire.
Mais même au sein de notre économie, mec. Au sein de notre économie, on décide d'investir 60% dans le social et je ne sais plus combien, 3% dans l'armée.
C'est ce que j'allais dire. 6% dans le régalien, dont 2 à 3% dans l'armée.
Ouais. Voilà. Donc, c'est encore une fois. Donc, à un moment, il faut, au lieu de pleurer chez les autres, c'est notre responsabilité. C'est nous qui nous sommes mis tout seuls dans cette situation. Il ne faut pas l'oublier.
Puis il ne faut pas oublier aussi, excusez-moi les gars, que pendant les 4 dernières années, Trump n'était pas au pouvoir. celui qui s'est prétendu être le nouveau chef des armées européennes, c'était Macron. Et on a vu quand même les conséquences pendant les 4 années où Macron a été, entre guillemets, le leader de l'Europe. Donc, je veux dire, Macron, il a perdu toute crédibilité vis-à-vis déjà de Donald Trump, déjà, dans un premier temps. Et Trump l'a dit lui-même. Il dit, les gars, vous avez eu 4 ans pour essayer de trouver un accord de paix entre les Russes et les Ukrainiens et vous avez rien fait. Et c'est même pire encore. Donc, Trump est légitime aujourd'hui. Il a compris que l'Union européenne n'avait plus sa place, et la France, j'en parle même pas, dans des pourparlers de paix. D'ailleurs, on sait que les pourparlers, maintenant, ça se fait directement entre les Russes et les Américains, ou les Ukrainiens et les Américains, et qu'en gros, quand Zelensky vient voir les Européens, c'est juste pour leur demander de l'argent. Et donc aujourd'hui, celui qui est... Et c'est pour ça que ceux qui sont en train de râler par rapport à ce comité de la paix, en train de dire « Ah, mais c'est les États-Unis », oui, parce qu'aujourd'hui, le seul qui est capable de taper sur la table et de calmer tout le monde, c'est Donald Trump, que vous le vouliez ou non. Voilà. Oui. Donc, il l'a fait avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie. Il l'a fait avec l'Inde, avec le Pakistan. Même si ce n'est pas une paix totale, c'est le gars qui peut t'appeler demain n'importe quel président et dire « Les gars, calmez-vous un petit peu, faites un petit cessez-le-feu, on se calme, on parle et puis on verra les choses après. » Trump, c'est le seul à faire ça. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc, oui, je veux bien que ça fasse réagir les gens comme d'habitude.
Et Pascal le grand frère hein, qui fait ça aussi. Mais
c'est un peu Pascal le grand frère. C'est la technique. C'est la technique Pascal le grand frère. Mais elle fonctionne en tout cas. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Elle fonctionne et je pense que...
Il est arrivé chez Kim Jong-un. Il lui a retourné le lit. Il a réveillé. Et il lui a dit de se calmer. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Ouais,
mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai en plus. C'est comme ça que ça s'est passé. Et,
je crois qu'il a dégagé le Canada de... de oui. De la paix.
Ouais, il a dégagé. Oui. Il a dégagé.
Bon, après l'armée canadienne, mec, bon, c'est pas pour manquer de respect, au point de respect aux soldats eux-mêmes, mais en termes de puissance.
Non, mais on n'avait pas les 1 milliard. On n'avait pas les 1 milliard de dollars, c'était trop cher pour nous.
Ah ouais, ils dépendent des États-Unis. Hein. Le Canada, c'est 100% défendu par les États-Unis. Et ils sont d'ailleurs très ingrats vis-à-vis des États-Unis par rapport à ça.
Exactement. Trump leur a fait savoir d'ailleurs. Il a envoyé un petit message.
Bon après, là, les Canadiens, les pauvres, ils ont vraiment un demeuré au pouvoir. Alors tu me diras, ils l'ont élu. Hein. Non mais.
Bah oui. Non mais il est pas bête. Hein. C'est pas Trudeau, je veux dire. Tu vois,
Non, c'est vrai. Mais il est ultra négatif, quoi. Hein, par contre, hein. C'est vraiment.
C'est un mondialiste. Bah, c'est...
Ah ouais, non mais ouais.
Il a travaillé à la Banque d'Angleterre.
C'est du poison. Hein. C'est le Macron du Canada. Hein. Donc ils sont quand même avec lui. Voilà. Là, ils ont leur propre cancer.
Non, mais ils ont élu le successeur de Trudeau. Hein, il mérite.
Exactement.
C'est différent, comme dit Joël. Hein. C'est pas un de Gaulle monde comme Trudeau. C'est vraiment c'est une vipère. Hein.
Lui, il était dans le pire truc du monde. Il était à la Banque mondiale.
Lui, il est vraiment dans le système. Lui, et pour le coup, il est allé signer des contrats avec la Chine. Donc la Chine, maintenant, on va dire. Potentiellement un pouvoir sur le Canada et il a aussi signé des contrats avec le Qatar et d'ailleurs Trump ça lui a pas trop plu, il va par rapport à son contrat avec la Chine, il a dit qu'il allait sans doute lui imposer un 100% de tarif parce qu'il a signé je pense que vraiment en fait en plus ce qui est marrant c'est que Carnet était supposé être le candidat parce que nous on avait un candidat conservateur Pierre Poilievre qui était censé être pro-Trump, mais ça, c'est dans l'esprit des médias. Hein. Poilievre n'est absolument pas pro-Trump.
Et donc,
ils ont... Ouais, il est neutre. Il est clairement neutre. Il est pro-Canada, en fait.
En fait, il était largement donné gagnant. Et le problème, c'est qu'il y a l'espèce de guerre avec les tarifs avec le Canada, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de voter Poilievre pour voter pour Carney, qui remontait ses manches contre Trump.
C'est ça. Puis tu as les médias aussi qui ont raconté n'importe quoi. Et puis, commencé à dire, c'est le mini-Trump. Bref. Et en fait, à la base, Carney, justement, il a été élu pour contrer un peu la politique de Donald Trump en disant, vous allez voir, je vais m'opposer aux politiques de Donald Trump. Et en fait, on voit qu'à la fin, Carney, c'est... Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre Donald Trump, je peux vous dire, les gars, il lui lèche le cul, mais c'est un truc de malade mental. Merci, monsieur Trump. Vous avez fait beaucoup de choses pour le monde. Merci. C'est incroyable comment ces gens-là sont d'une hypocrisie. Je veux dire, c'est.
Il s'insulte et après, il se serre la main avec un grand sourire. C'est de la politique. Hein.
Mais c'est marrant à voir. C'est vraiment marrant à voir. En tout cas, c'est marrant à commenter, en tout cas.
Parfait. Bah, écoute, génial. Je pense qu'on a fait le tour aussi. Ou vous avez d'autres choses à ajouter ?
Bien sûr. Non, on a fait le tour. Je pense que c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue sur les choses.
Ah oui, clairement. D'ailleurs, toi, pour terminer, Joël, est-ce que tu penses que Brigitte Macron a une bite ? Non, c'est pas vrai. Passe-moi autre chose. Je te remercie énormément d'être venu.
Faut pas répondre quand il dit des trucs comme ça. Faut faire comme si t'avais pas entendu.
Il hésite à répondre. Ah, t'as envie de répondre?
Non, mais moi, honnêtement, vous voulez que je vous donne vraiment mon avis?
Non, ne rentre pas dans son jeu. Ne rentre pas dans son jeu.
Personnellement, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, mais, ouais, mais ouais. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, je crois pas. Vraiment pas.
Tout est possible. On sait pas quoi. En tout cas, merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Allez suivre Trump Fact News pour arrêter d'avoir les mainstream médias français qui vous racontent n'importe quoi et qui déforment tout sur Trump. Et c'est aberrant, hein, parfois. Parfois, tu regardes ce qui se passe vraiment ou ce que te dit Fox News ou des journaux américains et tu vois la traduction qu'en font BFM TV ou je ne sais pas quel autre journal à la con français. C'est vraiment du bashing anti-Trump, pro-Macron, pro-Union européenne, etc. Et puis, tu reviens quand tu veux, mec, quand il y a des actualités Trump comme ça. Parce que j'imagine que toi, tu t'ennuies pas. Il y a un truc tous les jours en ce moment.
Ah, on s'ennuie pas. On s'ennuie vraiment pas. Donc, 2026, je pense que ça va être une année incroyable. Et voilà. Donc, merci les gars. Merci beaucoup. Merci le Guise de ton invitation. Ça fait plaisir. Et merci Baptiste. Et peut-être Baptiste, on se verra peut-être à Dallas à l'occasion, puisqu'on va aller commenter.
Dis-moi quand c'est.
Le CEPAC, c'est le 26 mars. 26 mars jusqu'à dimanche. Ça commence de mercredi. Ça finit à dimanche.
J'essaierai de venir comme ça.
Ça fera plaisir, ça fera plaisir. Merci les gars.
Ah, merci à toi. Ciao, Max. Mais écoute, c'était top. Je sais pas, Baptiste, si tu veux parler d'un sujet au hasard, n'importe quoi, ou si tu veux arrêter là.
Tu voulais... J'ai 5 minutes, ouais. Tu voulais pas faire un des TikTok que je t'ai envoyé, non?
Ouais, on va faire des petites réactions, tiens. C'est une excellente idée. Ah, en plus, il y en a qui est vraiment cool, vous allez voir. Bon, il dit pas que des trucs très intelligents tout le temps, cette personne. Mais là, pour le coup, c'était vraiment pertinent comme témoignage. C'est d'ailleurs toi qui me l'as envoyé, Baptiste. Je vais vous partager tout de suite. Riolo, je crois qu'il s'appelle. Daniel Riolo.
Je connais pas.
Je sais pas si ça te parle. C'est un mec qui est un journaliste sportif. Et toi, tu vas voir, tu vas le reconnaître, c'est toi qui me l'as envoyé.
Ah oui, oui, ah non, oui, c'est vrai que lui, il dit pas. C'est vrai.
Il est pas toujours au top, mais là, c'était pertinent.
Qu'il aille au bout de cette histoire, j'en peux plus.
Il n'y a pas d'acharnement pour moi.
Mais il n'y a pas d'acharnement, mais il était temps. T'as déjà bossé à Radio France? J'ai passé 3 ans.
Oui.
Quand j'y étais, quand j'en suis sorti, je me suis dit, mais si un jour, un monsieur doit enquêter pour savoir comment ça marche, il y passe juste un mois. Mais c'est tellement scandaleux. Je te jure, c'est soviétique. Mais d'où on a besoin dans le service public d'avoir autant de chaînes, autant de radios? Ça ne te semble pas normal qu'on a mis le nez sur les contrats de production? Savoir pourquoi c'est tout le temps la même maison de production qui produit les choses? C'est pas normal qu'on aille au moins se poser la question? Mais comme pendant 40 ans, on n'a pas eu le droit de le faire, sinon on se tapait la grève, sinon on se tapait des campagnes médiatiques contre les gouvernements qui auraient osé mettre son nez là-dedans, on n'a rien fait. Donc là maintenant, il y a un monsieur tout seul qui arrive avec son petit cartable, ses petits stylos, qui dit « je vais y aller ». Et on le prend pour un fou. Mais ce fou, moi je dis, tiens mon stylo, tu veux mes lunettes? Mais vas-y, continue ton enquête.
Donc en gros, c'est un témoignage de quelqu'un qui a vraiment été à la radio au public français.
Eh oui.
Que c'est l'enfer, quoi.
Non, mais c'est incroyable de dire que c'était connu, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment de notoriété publique, même de l'intérieur. Alors que ça n'a jamais.
Qu'est-ce qu'il attendait, ce mec, pour ouvrir sa gueule? Pourquoi des années après?
Bah, bien sûr, mais parce qu'à l'époque, à l'époque c'était eux qui le payaient.
Ah, il avait peut-être encore espoir de redécrocher un contrat avec eux à un moment ou un autre.
Ouais, sûrement encore. Mais tu vois, c'est incroyable de se dire qu'après, tu vois, il a fallu tout ce temps. C'est-à-dire que peu importe les gens qui ont travaillé, c'était connu, c'était pas un truc caché ou quoi. Il a fallu tout ce temps pour qu'aujourd'hui, ça commence seulement à faire surface. C'est dingue, l'opacité d'un truc. Non ?
C'est tellement
de cash. Il y a une omerta qui est incroyable.
Ouais. Incroyable. Tellement de cash en jeu. Tu vas réagir à d'autres trucs comme ça là rapidement ? T'as encore ça ?
Bah écoute, juste un dernier, ouais. Un dernier.
Allez, j'en prends au hasard.
Peut-être le truc sur le dernier que je t'ai envoyé, non ? Sur les immigrés ?
Ouais, je crois que c'est celui-là. On va vérifier ensemble. Mais je crois
On apprend dans le journal Marianne que les demandes de régularisation d'étrangers sur le sol français pour raisons psychiatriques sont en explosion. Ah ben, on est content. On est soulagé. Oui, figure-toi que selon un rapport intitulé « Procédure d'admission au séjour pour soins », alors moi je rajoute entre parenthèses « pour étrangers en situation irrégulière », je vais faire la parenthèse, du service médical de l'OFI, que Marianne s'est procuré, les troubles mentaux et du comportement représentaient le troisième motif de demande de titre de séjour entre 2017 et 2024.
Et ceux qui nous disent « oui, non, mais on fait venir des gens qui travaillent ».
Bien sûr. Alors que tu vois, dans tous les autres pays, ce serait un motif de refus. Ici, ça facilite la procédure. T'as aucune compétence, tu ne connais aucun mot de français, tu es un psychopathe, welcome.
Non mais...
Force Zik, mais c'est intéressant.
Alors, je connais pas ces gars, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, ce passage est intéressant. Mais la phrase qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que dans beaucoup de pays, ça serait un motif de refus. Avoir des troubles psychiatriques. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas te donner un visa pour ça. Nous, on t'obtient un visa grâce à ça. C'est-à-dire que tu rentres dans aucune case, mais ah, t'as des troubles psychiatriques. Bon, bah alors, tu peux venir te faire soigner, mais c'est... Enfin, c'est pour... Vraiment, c'est le système d'immigration française, il faut vraiment tout recommencer à zéro, quoi. C'est-à-dire que ça a été si loin dans la connerie que maintenant, mais ça devient complètement crétin. C'est incroyable. C'est pas avec 2-3 réformes qu'on va changer ça, quoi. Il faut vraiment tout reprendre à zéro.
En plus, la consanguinité, ça apporte beaucoup de problèmes psychiatriques, et la consanguinité est très présente dans certaines parties du monde, notamment dans les pays musulmans.
Certaines parties
du monde. Donc, a priori, tous les combattants d'ISIS, ils pourraient avoir un visa en tant que déséquilibré mentaux pour rentrer en France, quoi.
Non, mais...
Pour rentrer un petit dossier sur Internet...
Qui définit qui est un trouble psychiatrique? C'est tellement facile. Il y a eu tellement d'études qui ont été faites qui ont montré qu'en vérité, les psychiatres ne sont pas vraiment capables de savoir. Tu peux fake un trouble psychiatrique très facilement. Je me rappelle de cette étude, je crois que j'avais donné l'exemple qui avait été faite avec le mec qui envoyait des faux patients dans des hôpitaux psychiatriques en disant qu'ils avaient des hallucinations. Et en fait, après, les mecs, ils n'arrivaient même plus à sortir des hôpitaux. Ouais. Parce que
qu'ils arrivent à sortir, à justifier qu'en fait, ils n'avaient pas de troubles psychiatriques.
Ils n'avaient même pas à justifier, alors que c'était complètement inventé. Donc, vous voyez, c'est tout ça repose sur rien du tout. Et je pense que c'est aussi une voie qui doit être largement exploitée par toutes les associations de gauchistes, de traîtres qui aident les clandestins à s'installer en disant, bah, tu sais, dis que tu as des troubles psychiatriques, fais genre ça et tout, et on peut t'obtenir un visa comme ça. Enfin, c'est évident, quoi.
Entre les mafieux italiens qui se font payer pour héberger des immigrants et puis les gauchistes qui veulent détruire la civilisation occidentale, ils doivent se faire plaisir. Mais écoute, parfait mec. Est-ce que tu veux faire ta petite promo d'un truc avant de
Non, ben voilà, je l'ai dit, abonnez-vous, essayez de venir faire un test sur Patreon. Il y a les gens qui se sont abonnés la dernière fois, j'ai eu d'excellents retours. Donc, n'hésitez pas à venir tester, à venir voir No Country for Old Men si vous voulez un podcast qui change un peu. Si vous voulez plus approfondir sur le genre de sujet qu'on traite sur Radio Dixie, etc., abonnez-vous à celui du Guise, parce que c'est la même chose pour le Patreon du Guise. Hein. Vous pouvez tester un mois, et si ça ne vous plaît pas, vous désabonnez. Et pendant le mois où vous êtes abonné, vous pouvez regarder tout ce qui a été posté. Hein. Toi, j'imagine que tous tes contenus sont accessibles pour les membres payants.
100% accessible. Voilà. Par contre, moi, les gens qui se désabonnent, je leur envoie des gars chez eux en France.
Des menaces de mort, voilà. Oui, oui, ouais. Bon, bah, ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Non, mais voilà, donc n'hésitez pas à venir tester et à nous dire ce que vous en pensez, parce qu'on fait Radio Dixie, mais on fait énormément d'autres contenus en dehors. Et comme les gens qui veulent les vlogs sur les États-Unis, je sais que ça s'appelait beaucoup. Moi, je fais beaucoup de vlogs sur ma vie au Texas, donc allez voir ça. Il y a des vidéos de chasse, il y a des tutos, il y a des vidéos cigares, il y a des podcasts, il y a des interviews, il y a énormément de choses différentes sur mon Patreon. Voilà, ça vous fait des heures et des heures de contenu. Si vous ne savez pas quoi regarder, aujourd'hui, il y a une baisse de la qualité du contenu quand même sur YouTube. À droite, c'est clair, il n'y a plus autant de choses et tout. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir. Voilà, c'est la moitié d'un abonnement Netflix. Et pour le coup, ça nous soutient très largement. Moi, ça me soutient énormément. Et puis, c'est sympa. Là, pour le coup, tu vois, moi, sur Patreon, je ne sais pas toi, mais moi, je lis tous les commentaires.
Tu réponds aux commentaires presque. Moi,
à certains commentaires, etc. Ouais. Quand moi, je demande des trucs,
un peu moins,
contrairement à YouTube où tu ne peux pas. Là, comme c'est aussi une communauté sélectionnée, je tiens beaucoup plus compte de leur avis. Donc, par exemple, quand j'achète un nouvel équipement, ce que je faisais jamais avant sur YouTube, là, je leur dis, est-ce que vous trouvez que cette caméra, elle est mieux? Qu'est-ce que vous pensez du son? Et ça m'intéresse vraiment de voir, tu sais, je ne fais pas semblant, parce que là, il n'y a aucune histoire d'algorithme. Donc, il y a des commentaires ou pas de commentaires, c'est pareil pour moi, ça ne change rien. Ouais. Du coup, là je ne demande pas des coms pour l'algorithme ou quoi. Ça m'intéresse vraiment d'avoir le retour des gens. Donc, je trouve que c'est sympa. Il y a un côté communauté, j'aime beaucoup les gens.
Ils nous conseillent des sujets.
D'ailleurs, j'essaie de tenir compte de ce qu'ils disent, vraiment.
Ouais. Moi, j'ai une conversation de groupe. Je sais pas si toi tu l'as, mais en tout cas, moi, j'ai une conversation de groupe.
Parce qu'il y a trop de monde, j'arrive pas à suivre les conversations.
Ah, ok, moi, il y a moins de monde, évidemment. Je suis pas une star. Mais non, mais toi, mec, c'est clair que tu te promènes dans la rue en France, il y a plein de gens qui te reconnaissent. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on discutait de ça.
Mais avant, toi, ça fait longtemps que tu n'as pas été en France, gros, mais tu serais surpris. Hein.
Ah ouais, tu penses?
Je pense que tu serais vraiment surpris. Bah oui, parce que tu vas jamais en France. Mais mec, tu serais surpris. Hein. Si demain tu vas à Paris ou dans une grosse ville, ou dans les grosses villes du sud où on est souvent populaire, genre à Toulouse, etc., tu vas voir que tu vas faire des photos, c'est sûr. Ah bon, ça surprend un peu, mais ouais.
Ok, c'est cool. En tout cas, il y a quand même un différent niveau de fame. Donc moi, il y a une conversation de groupe dans laquelle vous pouvez poster des trucs et on échange tous ensemble. Je te laisse partir, Baptiste, parce que là, je suis en train
d'abuser de ton temps.
Merci à tout le monde. Ciao, les gars.
Ciao.